hein, c'est EAP le rappeur le plus gang de tout Biémassi. Et tu es branché sur For Real, le podcast avec Anton Justin. Tu connais, non, ça tabasse.
Yo, bienvenue dans For Real, le podcast, le meilleur podcast camerounais sur la musique urbaine. Aujourd'hui, je suis avec un invité de marque, quelqu'un, un bâtisseur. Il a tant fait pour l'industrie musicale camerounaise et ça faisait un moment que j'avais envie de l'inviter. Il s'appelle Dex Willy. Bonsoir Dex.
Bonsoir Anton.
Comment tu vas?
Ça va bien et toi-même?
Ça va, je suis très content que tu aies accepté mon invitation dans For Real, le podcast.
Oh, c'est un plaisir, hein. C'est tout l'honneur est pour moi, honnêtement. Encourager des initiatives comme ça, franchement, c'est nouveau, c'est frais. Et ça fait plaisir de faire partie des premières pierres, quoi.
Merci. Est-ce que tu peux te présenter pour, je dis souvent, pour ceux qui commettent le crime de ne pas connaître un certain calibre d'invité et pour ne pas connaître Dex Willy. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
Ouais, c'est tout à fait normal, hein. C'est normalement, les producteurs, managers, c'est pas eux les stars. Les stars sont ceux qu'on développe, donc on n'est pas tout le temps très connu. Mais du moins, je m'appelle Dex Willy Bomo, c'est mon vrai nom. Dex Willy Bomo, je suis originaire du Sud et du Cameroun. Je suis développeur de talent. Je me présente mieux en développeur de talent qu'en producteur ou en quoi que ce soit parce que, à la base, l'idée de produire m'en vient parce que des gens ne croient pas en ce que je fais et je me dis, bon, je vais mettre mon peu d'argent moi-même dedans et puis on va créer un label indépendant et on va faire avec nos propres moyens. Donc, ouais. Voilà, je suis développeur de talent, producteur, entre guillemets, et je suis acteur de cinéma aussi. J'ai tourné dans plusieurs séries comme Tourbillon, Madame, Monsieur, etc.
Oui, où tu as fait une apparition remarquée.
Voilà.
Tu étais le mari de Muriel Blanche.
Exactement, ouais. Le gigolo.
Le gigolo
de Muriel Blanche.
Que ouais. Tu assumes fièrement, que j'assume, tu assumes fièrement dans la série.
Dans la série, non.
Et même en dehors.
Non. En dehors, okay, je suis monsieur. Mais bon, j'étais le gigolo de Muriel Blanche dans la série. Coucou à tous ceux qui regardent la série. Voilà, Tonton et quoi là, c'était ça mon nom pour juste rappeler, rafraîchir un peu ceux qui étaient là et mes fans qui suivent aujourd'hui. Donc voilà, Dex Willy en gros, je suis aussi un père de famille, père de 3 enfants et voilà, c'est tout ça.
D'accord. Comment est-ce que toi tu arrives dans cette sauce qu'est la musique? Comment tu la découvres? Comment tu décides d'en faire ton gagne-pain, c'est ça?
Ouais,
ton gagne-pain de manière professionnelle.
Disons, bon, après, la musique n'est pas réellement mon gagne-pain.
Ouais.
La musique, c'est une passion, c'est, disons, c'est une branche de ce que je fais, mais c'est la chose que je fais de mieux avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'amour. J'ai d'autres choses qui me rapportent pour pouvoir tenir ma famille à l'écart des misères de la musique. Parce que s'il fallait vraiment qu'on vive de ça, je crois que mon fils serait plus dans la même école aujourd'hui, peut-être qu'il serait rentré à l'école publique ou un truc et tout. Donc, il y a beaucoup de choses qui aurait changé en fait en gros, mais bon, on essaie de tenir le cap. Moi, je suis entré dans la musique, disons déjà à la base, comme tout le monde, nos parents ont beaucoup influencé souvent sur notre dévolu. Mais ma mère, c'est une grande artiste, talentueuse dans le cinéma, talentueuse dans le chant, dans la danse et tout, très belle femme aussi et tout. Mon père, je ne sais pas, il dit qu'il chantait, mais j'ai jamais entendu quelque chose de lui chanter, mais il dit qu'il chantait, qu'il avait même sa guitare, tout ça, il a toujours aimé la musique, mais bon. J'allais à l'école tous les jours depuis le primaire, mon père m'amenait dans sa vieille voiture en écoutant du Donny Elwood, je m'en souviens comme si c'était hier, ratatiné, le nez est parti. Il m'avait désigné, ouais, Donny Elwood, Lou Kwakwanza, Richard Bona. Tout ça, j'ai vraiment grandi dans cette sauce de la vraie musique.
Ouais.
La vraie musique. Et ce qui m'a influencé, qui m'a bercé et qui m'a donné envie de bercer aussi d'autres générations. C'est comme ça que je m'accroche à l'amour de la musique et je décide de faire de la musique aussi au secondaire. Je dis, ok, moi, si je vais faire la musique, j'ai commencé en 6e, 5e, je fais des petits raps, j'écris des petits textes. Je me souviens même, parce que je ne pouvais pas aller au studio, j'ai dû graver la musique de Singla, Le Misérable.
Ouais.
J'ai un CD, j'ai écrit Dex Willy. À l'époque, non, je m'appelais BW Dex, mon nom d'artiste. J'ai menti à une fille, c'est moi qui chantais. Elle a déjà
tout
ça. Elle a bu jusqu'à ce qu'on m'invite pour chanter
ouais.
À l'anniversaire. Et puis, ses sœurs savent qui chante le son. Et sa sœur, et la fille en question avait dit là-bas, que je sors avec celui qui a chanté ça. Maintenant, c'est ça, savent que c'est Singila. Du coup, quand elle dit que celui-là, il arrive, elles savent que Singila arrive. Donc, j'arrive là-bas. J'ai la boule zéro, oui, c'est ma confie depuis. Ouais. Elles sont un peu dubitatives. Mais ça peut être lui, hein. Mais gars, comment il vient en taxi? Singila est venu ici à Chang. En plus, c'était à Chang.
Oui.
Il vient dans le quartier comme ça et tout. Il n'a même pas de garde de corps. Et toi, après, non, c'est pas vraiment Singila. Il dit non, c'est pas moi Singila. Il dit mais c'est Singila qui chante la chanson. Il savait pas qu'elle pouvait être au courant. Moi, je croyais que c'était un grand chercheur de musique. Donc, j'ai découvert quelque chose qu'elle ne connaissait pas. On m'a odé.
En même temps, tu as négligé les gens de Chang.
Voilà, je me suis dit qu'ils ne connaissaient pas. Tu vois, je vais pouvoir les embrouiller. Et donc, cette expérience-là, le lendemain, je suis allé au studio de Malcolm X. Combien? Parce qu'en fait, je me disais, je peux chanter ça. Donc, ça ne sait rien si je dis que c'est moi qui ai fait ça. Moi aussi, je peux faire ça. Donc, ça. Le lendemain, je suis allé. J'ai refait la chanson Les Misérables. Et j'ai redonné le CDG, j'ai dit que c'est moi qui chante. Tu veux pas au studio, tu vas aller voir. On a le studio, elle allait voir. Mais, ouais, mais c'est lui, hein. Mais comment c'est lui? C'est lui qui a même copié mon sang. Donc voilà, j'ai vraiment aimé ça. Et depuis ce temps-là, studio. Mes parents ont tout fait. Fini l'école, j'ai jamais échoué, par chance. Toujours allé devant. Et puis professionnellement, c'est j'ai signé sur un label qui s'appelait SMB à l'époque. Qui était tenu par Fabrice Ngondi d'Emtare, qui est aujourd'hui au Canada. Il avait décidé de me signer parce que je faisais beaucoup de musique tout le temps, mais je ne les sortais même pas. Ouais. Il a eu la chance d'écouter dans la voiture d'un de mes grands mes musiques. Il a dit, mais qui chante ça? Il a dit, c'est mon petit, il est là-bas, Yaoundé et tout et tout. Il est en train d'aller au State. Et j'étais même déjà au State quand il m'appelle, il me dit, petit frère, reviens ici au pays. Je veux te produire, je ne sais pas ce que tu fais là-bas. Comme ça que j'entre professionnellement dans la musique.
Ouais. Alors moi, je te découvre, j'écoute beaucoup de musique depuis. Mmh. On est là dans les années 2014-2016. Je te découvre en collaboration avec Blacky Cara sur le titre « Change My Life ». Notamment parce qu'il y a la fille de la plus haute personnalité de l'État dans le clip. Et c'est assez marquant parce qu'elle ne faisait pas d'apparition. Et après, on la découvre dans un clip. Et je découvre quelqu'un au refrain. Et au refrain?
Oui. Et au couplet aussi.
Et au couplet, ouais. Et je vois l'intitulé Dex Willy. Je me dis, ah, d'accord. Sachant qu'avant ça, je pense, tu sors d'abord, les lions sont fâchés.
Mmh. Et merci, papa.
Voilà, et merci, papa. C'est là vraiment que je mets un nom sur le visage Dex Willy. Comment ça se passe, cette collaboration avec Blacky Cara? Comment ça se passe et comment vous arrivez à avoir la fille de la plus haute personnalité que je ne vais pas citer ici pour ne pas avoir de problème après.
Non, mais ça ne devrait pas être un problème puisque c'est sur Internet.
Je préfère éviter.
Ok, il n'y a pas de souci. Donc oui, Blacky Cara fait partie de la vague des premiers artistes que je décide de développer. C'est-à-dire à l'époque, quand SMB me prend, moi aussi je prends avec moi des jeunes. Je me dis des plus jeunes, parce que moi-même j'étais jeune.
Oui.
Je prends des plus jeunes et Blacky Cara, au même titre que Tenor, au même titre que Ocho, font partie de la première vague d'artistes que j'ai décidé de développer. Donc voilà comment, pour donner de la force, parce que moi j'existais déjà, j'ai fait une collaboration avec lui, donner du poids. Et comme de son côté ou de mon côté, on avait des affinités de sang, des liens parentaux. Avec cette fille de haute personnalité, on a pu la voir dans le vidéogramme avec l'autorisation parentale. Hein.
Oui. Ouais.
Donc, on a tourné avec elle. Il y avait même d'autres grosses personnalités, des enfants de grosses personnalités là-bas aussi, ce jour. Et c'était vraiment excitant de voir ce soutien qui venait d'en haut, comme d'en bas aussi et tout. Blacky, c'était un jeune artiste avec 14 ans. Et moi,
oui, il était très jeune à l'époque.
Il avait beaucoup de talent, le petit. Beaucoup de talent. Donc voilà, on a fait cette chanson. C'est comme ça qu'on l'a eu. C'était très difficile de la faire entrer, même dans le quartier. C'était compliqué. Cette expérience, je ne l'oublie pas souvent. Mais ça s'est fait. Ça a bavardé. On nous a même demandé de retirer le clip sur YouTube.
Oui.
On a retiré. Puis après, on est parti voir ses parents, tout ça. On a expliqué pourquoi. Il n'y avait rien de mal. Puis on nous a demandé de remettre, mais sous un autre label maintenant, qui était le label de la maman de Blacky. Parce qu'elle ne pouvait porter sur elle s'il y avait un problème ou pas. Ouais. Et moi, War Machine, parce que c'était les premières productions de War Machine, je ne pouvais pas encore, au cas où, il y avait un problème de pourquoi vous avez remis en ligne. Donc voilà.
Ouais, d'accord. Donc c'était assez délicat quand même, juste le simple fait que cette personne-là soit dans l'équipe, c'était assez délicat à gérer. Ouais, j'imagine. J'imagine. Et justement, tu disais, ça tombait juste après les débuts de War Machine.
Oui.
War Machine, tu fondes le label quand?
Alors, à un moment, le monsieur qui me fait rentrer au Cameroun, Fabrice Gandhi, pour SMB, il a des problèmes dans son travail et il disparaît. Disparaît, on n'a plus de nouvelles. On sait qu'il a des problèmes, mais on n'arrive plus à parler avec lui. Et j'avais déjà un studio, j'avais fait venir Bowser de Tchang. Je l'ai connu à Tchang, je trouvais qu'il faisait bien, n'avait pas le matériel, mais le peu qu'il avait, il faisait des très bons travaux. Et donc, quand j'ouvre ce studio, je dis à Bowser, viens, c'est toi qui vas gérer le studio. Enfin, voilà ton bon studio, fais la liste de tout ce que tu veux. Donc, on avait quand même ce studio qui était resté à nous en ce moment. Oui. Et donc, j'ai dit à Bowser, écoute, on a mes petits là. Moi, comment je vois ma carrière, il faut beaucoup d'argent pour ça. Il faut beaucoup d'argent, 100 millions même. Moi, je ne peux pas faire la musique comme ça là, il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc, le peu que j'ai, même si c'est 50 millions, c'est 20 millions, c'est combien, je peux quand même le dispatcher sur des artistes en herbe et on développe. Quand ils vont marcher, je vais maintenant revenir dans la musique moi-même.
À cette époque-là, il y avait déjà quand même la notion de business dans un coin de ta tête.
Oui, je suis un stéphane, donc j'ai le business mindset depuis. Et donc, voilà comment, avec besoin, on s'entend, de commencer à enregistrer ces jeunes et de recruter encore plus même. Donc voilà, Brian Fox qui s'ajoute, c'est un artiste qui est maintenant sous l'aide de Singila. Singila l'a signé à 2 ans. Brian Fox, il s'appelle Braille maintenant.
Je pense que j'ai eu l'occasion de le voir au Musée National il n'y a, il y a pas 2 mois.
Exactement. Oui, Braille, grand comme ça.
Et oui, Braille exactement.
Qui s'ajoute. Et on se retrouve maintenant, on est 6. Je ne me souviens plus du nom, il y a un autre là, mais j'ai oublié son nom, ce qui n'était pas très fréquent. Tous étaient des élèves venant en tenue là-bas, après les cours, ils fuyaient, on enregistrait et tout. Et parmi eux donc, Tenor, c'est le dernier rajout. C'est-à-dire, Tenor avait fait le remix de ma chanson « Les lions sont fâchés » et il cherchait à me rencontrer. Donc, il a demandé à tout le monde, dès que je n'étais pas au Cameroun, j'étais là, quand je suis là, il ne sait pas, tout ça. Et donc, je partais à soi un jour, j'entends « tum tum », je dis « ah, ça, c'est pas mon beat, ça ». Les gars sont en train de tourner un clip là, à l'Esplanade du Stade Omnisports, avec une vieille voiture là, et toi, des faux billets et tout. Je dis « c'est qui ça ?» Le gars, je vois un petit, il avait le papier à lui sur les dents. Il est en train de rapper. Je dis, mais c'est qui ça qui rame mon son? Il m'a dit, ok. C'est quelle langue même qu'il parle là? Parce que je ne comprenais même pas. Son français était tellement accentué que je me disais, mais c'est quelle langue ça? Donc après, j'arrive, je descends. Et quand je descends, il dit, hé, Seigneur, voici Dex Willy, c'est là. Grand frère, je te cherche depuis, voici ton son, même le remis, je suis en train de tourner, je te cherche depuis, grand, merci Seigneur. Il dit, ah ouais, tu me cherches où? Il dit, je cherche partout, j'ai demandé aux gens, il dit qu'il veut que le grand m'écoute seulement. Et j'avais même pas encore le label officiellement, j'avais dit qu'il voulait juste que le grand qui a fait le son l'écoute parce qu'il était fan du grand. Donc après, je lui dis, mais là, vous faites quoi? Il dit, on fait le clip grand. Je vois le matériel qu'il utilisait. Tu sais quoi, mon petit? Fais écouter le son. Il fait écouter et tout. Il dit, arrêtez ça, il n'y a pas de problème. On va faire une chose. Tu vas venir au studio demain. On va écouter ce que tu as. Et si c'est que c'est vraiment bon, on va faire des vraies choses. Donc, c'est comme ça que Tenor rejoint aussi l'écurie. Et lorsqu'il rejoint donc l'écurie, je le teste. Il met un beat. Il dit, OK, va au micro, on va faire. Pop, il sort un son. J'écoute comme ça. Il est chaud. Après, il dit qu'il y a des chansons que tu sens que si on fait maintenant, ça va marcher. Et tout, et tout. Il dit que quand j'ai un freestyle qui est fait sur Nathalie Kouala, les gens parlent de ça sur Internet. Si on fait ça vrai, ça peut faire que. Je dis, fais écouter. Tu as le beat. Il dit, non, on peut n'importe quel beat, il peut faire ça. On met un beat là, papa. C'est comme ça qu'il enregistre Nathalie. 2 jours plus tard, on est en train de clipper Nathalie. Pop, ça explose, ça commence à. Et tout. Et donc, le moment de sortir le clip, le réalisateur transversal me demande, on va mettre quel label? Car moi, je ne sais pas, tu sais que je suis une machine de guerre, donc, mais c'est moi la guerre. Il va s'appeler la guerre. Il dit que non, tu as dit machine de guerre. Mieux tu mets machine de guerre. Il dit, mais machine de guerre, ça fait trop, c'est trop brutal.
C'est trop terrible.
Mettons ça en anglais. War machine. Il dit, ah, ça sonne bien, war machine music. C'est comme ça que je décide d'appeler mon label War Machine. La première signature était Tenor. une signature visuelle, c'était tenant, ouah, machine. À l'époque, on a un logo avec les ailes comme ça. Et
oui.
C'était la première, c'est comme ça quoi machine.
Si je comprends donc bien, il arrive le dernier, mais c'est lui qui surclasse tout le reste, il sort le premier. Oui. Wow. Comment ça se fait dans quel contexte est-ce que le label naît? Est-ce qu'on est dans les années 2014, 2000?
Non, là, on est déjà en 2015.
2015.
Fin 2015.
Fin 2015. Est-ce que l'évolution de l'industrie est favorable à ce genre de move, c'est-à-dire la création d'un label? Comment est-ce, dans quel contexte même est l'industrie à ce moment-là pour les labels?
Oui, c'était encore très embryonnaire en ce moment. Je pense qu'il était plus facile même de réussir à ce moment que maintenant.
Oui.
Oui, parce que maintenant, il y a trop d'artistes, il y a trop de facilités et tout, donc il faut vraiment se démarquer. Mais en ce moment-là, il fallait juste bien faire. Il y avait beaucoup d'artistes aussi, mais quand tu faisais bien, on te voyait. On te voyait aujourd'hui, beaucoup de n'importe qui veut chanter, tout le monde veut chanter. Donc on ne sait même plus qui est qui. On ne sait plus qui est qui. Donc en ce moment, c'était plus simple pour moi que maintenant, là, que peut-être quand j'ai pris Averro et Chara, c'était vraiment la guerre. Mais maintenant, Tonor, pour pouvoir l'imposer, comme il avait un style très, très rash, et que les gens ne comprenaient pas, les gens me disaient, mais gars, il rappe quoi, mon fils? Il y a des trucs, bêtis, là, on ne comprend rien. J'ai dit, les gars, tout, c'est la façon de vendre. Comment il va vendre le petit, sinon vous-même, vous allez encore le voir comme un dieu. Et c'est comme ça que j'ai créé le mythe Tonor, parce que Tonor était un mythe. Parce que tous les artistes que je développe, je leur donne un nom de code. Tonor, c'était le monstre. Et ça, c'était le monstre. Quand tu le voyais, tu étais censé avoir vu un monstre. Ses yeux, ses dents, son attitude, tout ça, on a travaillé pour pouvoir créer un monstre, un mythe. Donc tout le monde voulait découvrir les yeux de Tonor, tout le monde voulait voir qu'est-ce qu'il est normal. Après, on a acheté des bagues qui allaient faire réfléchir les gens que petit, c'est dans quoi comme ça, là, tout. Ouais. C'était des bagues avec de la pierre rouge, tout. On a acheté à 2000 là, mon colo. Tu vois, on a l'insa sur ses mains, mais les trucs et tout. Et vraiment, il représentait le mythe. Donc, quand il retire ses lunettes, il te regarde, il fait ça. Après, il remet ses lunettes, tu te demandes, mais c'est qui ça, tu vois. Comment on clippait? J'ai pris des derniers économies et clippé chez Dr. Nken, qui était très cher à l'époque. Mais on a dit que non, on va commencer avec Dr. Nken. Il y avait beaucoup qui voulaient même tourner gratuitement. Moi, je ne suis pas dans le délai là-haut, tu es mon ami, tu fais les clips, je vais prendre parce que non, je sais ce que je veux. Je préfère prendre mon argent, payer, que de faire gratuitement ce que je ne veux pas. Donc, on allait tourner chez Dr. Nken et on l'a bien positionné. Puis, Blackie est venu aussi, Ocho est venu aussi.
Oui. Ocho Zoumé.
Ocho Zoumé, oui. Oui. Mais j'étais très concentré sur la carrière de Tonor que j'ai dû dire aux enfants là que pour le bien de tous, laissez-moi positionner Tonor. Quand j'ai fini de positionner Tonor, Tonor, même l'énergie de Tonor va toucher tout le monde. Tout le monde va bénéficier de ça. Oui. Les gars ont pris un stand-by, malheureusement, Blackie. Sa mère a dit, mais c'est même quoi ça? Non, elle avait le produit, elle a commencé à le produire. Après, Ocho aussi. Ocho est resté. Il accompagnait Tonor sur les scènes. C'est Brian, qui est un cousin de Blackie, qui est aussi sa maman, qui a aussi commencé à le produire. Bref, les deux sont partis. Je suis resté avec Ocho et Tonor. Ocho, c'était celui qui devait suivre directement Tonor. Donc, voilà comment on s'est déployé. Puis, quand je sens que le truc est en train de prendre fort, je décide de rebac au state, m'inscris donc à l'université de Langston et fais le Music Business Management. Je me suis dit, ok, j'ai déjà le don. Je sais déjà faire ça. Moi-même, je sens que je suis fort. Mais comment est-ce que je gagne? Parce que oui, jusqu'ici, ouais, l'artiste est star, il mange bien, c'est-à-dire son pourcentage permet qu'il vive bien et tout et tout. Mais moi, mon pourcentage repart dans son branding. Quand est-ce que je gagne? Est-ce qu'il y a d'autres canaux, etc. Bon, 3 mois avant que je ne parte, il y a ta fille qui traînait tout le temps là, chaque fois qu'il nous voit sur scène, il vient dire, est-ce qu'il peut être avec vous? Et tu dis qu'il n'y a pas de souci, il vient. Et tout, qu'il n'y a pas de souci. Donc, on le traînait comme ça, partout. Et je le trouvais très respectueux. Oui, on fait comment maintenant? Ok, demain, on fait quoi? Tu veux que je fasse quoi? Et tout le monde me disait, gars, ta fille là, mon frère, il a fait, il dit, gars, mon frère. C'est comme moi, je vois. Ouais. Je vois que c'est un bon petit. Il est respectueux, il est docile et tout. Moi, je n'ai pas de problème avec lui. Donc, du coup, je l'amenais partout. Quand j'ai un spectacle à Douala, il dit, ok, monte dans la voiture, on y va. Quand on vient, on part et tout. Et puis, donc, en partant, je réfléchis, je me dis, à qui est-ce que je vais laisser le petit? Il y a le grand Pete qui voulait que je le laisse, je lui laisse le petit. Et puis, il y avait ta fille. Moi, comme je sais ce que je veux, j'avais besoin de quelqu'un que je peux manipuler
Oui.
facilement. Que fait si, il fait ça. Pas quelqu'un qui va me dire que tu es mon petit, tu ne me parles pas. Non, parce que les grands comme ça, c'est compliqué. Donc, j'ai préféré remettre à ta fils le nom et lui dire, mon frère, tout ce que je te demanderai, c'est de faire ce que je te dis. C'est tout. Je vais piloter cette carrière de loin, mais comme on est ensemble, on est tous jeunes, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça, là, c'est tout ce que je te demande. Donc, je suis parti. Au début, ça se passait très bien jusqu'à ce que, je crois, un an après, quand j'avais même presque fini déjà avec le cursus que j'ai engagé, je vois un jour comme ça, il me réveille le matin, je te n'en ai plus du label de Command Accord avec son producteur. Je dis, Command Accord n'a pas le cas. On
Ouais,
n'avait pas de
là,
problème.
là tu embrayes sur l'une des questions qui devait
Ouais.
suivre. Ténor, il est War Machine. Et comment ça se passe pour la collaboration et la fin? La fin du contrat. Là, tu racontais déjà la fin du contrat
Ouais.
où tu te réveilles et puis, entre guillemets, de comment t'accord, Ténor n'est plus chez War Machine sans que toi tu ne sois au courant.
C'est ça, c'est ça. Tenor, la collaboration était magnifique. C'est-à-dire, on avait une symbiose, on se comprenait rapidement. C'est-à-dire, quand il est même sur scène et qu'il y a un problème, même si je ne suis pas là, on va dire, gars, ton petit est en train de déranger ici, là, on lui passe le téléphone, deux, trois mots, il a quand même compris, gars. Et il fait. Il était respectueux. Il était un bon garçon. Même sa mère, quand elle voulait lui dire quelque chose, elle était obligée de m'appeler, que dis à ton petit que machin, machin, parce que c'est moi qui l'écoutais beaucoup, parce qu'il voyait en moi son rêve se réaliser. Et on travaillait bien, posément, tout se passait très bien, jusqu'à ce que je parte là. On était très bien, ce sont eux qui m'ont déposé à l'aéroport, ta fils, lui et sa petite amie de l'époque. On est allé. Et puis, même pendant que ça, mon séjour là-bas, tout se passait bien. Je t'ai dit jusqu'au jour. Du coup, je me réveille le matin comme ça. Le matin, on avait parlé tranquillement, aucun problème, donc il n'y a même pas de souci. Et puis le soir, je sors du taf. C'est quand je sortais du taf que je pouvais regarder le téléphone. Puis je vois partout sur Facebook, waouh, machin, non, machin, tout. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je l'appelle, ils sont à l'aéroport, c'est là où on doit commencer à manger.
Oui.
Parce que depuis là, on a les 250 000 de cachet. Les 150 000, les 300 000, on commence déjà à monter un peu dans les 500 000, mais retenez toujours que moi, ma part, repartait dans le branding. C'est-à-dire que si on l'invite dans un spectacle et qu'on a prévu que c'est la 26 qui va venir le chercher, moi, je vais prendre 90 000, je vais louer un TXL parce que je veux que tout le monde arrive dans l'image du branding que je suis en train de lui donner. Je préfère sacrifier comme ça jusqu'à ce qu'on commence à manger gros. Et donc, je ne gagnais pas vraiment. Je ne faisais que tourner, tourner, payer sa maison où il vivait. Et des fois, un matin comme ça, on dit, Tenant n'est pas là, personne ne sait où il est. J'envoie tout le monde à Douala, les gars, chercher Tenant et tout et tout. On va le trouver dans une salle de jeu arcade. Il a enlevé les habits, alors qu'il est déjà star. Tout le
Ouais.
monde, Tenant, il est en train de jouer là. Vraiment, c'était un gamin. Il est là en train de jouer. Je demande à mon assistant, demande le jeu là coûte combien? On dit que 250 000.
Achetez, vous allez
Après
mettre à la
ça, on va
maison.
te mettre dans sa maison.
Oui.
J'envoie l'argent. Ils vont prendre, ils mettent ça chez lui. Maintenant, il peut venir le quartier chez lui. Après, tu dis, non, on ne peut pas tout contrôler et tout. C'était un enfant excité, énergie, tout ça. Vraiment agréable à travailler avec parce qu'il exécutait. Et chaque fois qu'il exécutait, on avait du succès. Je me souviens encore au concert de Kif Nobit, il était première partie. Mais on a tout fait pour qu'il paraisse comme c'était son concert. Et Kif Nobit était en première partie. C'est-à-dire, on arrive avec un cortège, TXL, tout, tout, tout. Et puis on commence à dire, non, on est dehors du portail, on veut que les gars crient. Mais il est où? Après, le présentateur dit que s'il ne vient pas, maintenant il ne va plus chanter. Le gars qui a organisé le concert, qui était mon ami Arthur, je lui dis à Arthur, que gars, laisse, quand le petit s'y va monter, tous les machins qui sont en train de bavarder là, ils vont fermer
Eux-mêmes
la
seront
bouche.
d'accord. Comment on
Laisse,
dit
on
au
fait notre
pays?
film.
Ouais.
Laisse, on fait notre film. Après, on le fait entrer dans la foule comme ça avec les voitures. On lui donne le micro, tant qu'on a la voiture, on vient, alors, ouais, toute là. Même le Kif Nobit était déjà là. Et donc, il fallait soit le Kif Nobit monte et Tenant passe après, soit Tenant ne passe plus. Tu vois, il ne monte pas là, il ne passe plus. Là, si vous voulez, non, il ne passe plus. Les gars ont attendu, le Kif Nobit sont, mais si on attend qu'on est là, il toute la foule, le Kif Nobit ont baissé les vitres. Ne savaient pas qui était le petit. Ils sont choqués. Donc, on monte sur scène, ils chantent. On a même volé ses dents le jour là.
Oui, c'est grill.
C'est gris, c'était en or. On a arraché ça, arraché ses chaînes, déchiré ses habits, tout, tout, tout.
Il a sauté
C'était
dans la foule.
comme d'habitude. Comme d'habitude. J'ai dit, je l'ai tenu, j'étais sur la scène, j'ai encore des photos même. J'étais sur la scène, il a dit, tenez sa scène, tu ne pars pas. Il était déjà là, les gars l'ont tiré, on lui a fait la vague et tout. Quand il est revenu nu. sans chaussures, tout, 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 et ils s'en foutaient. Tout le monde a vu, c'est là où on a donné sa place de bête de scène. Donc vraiment, en termes de collaboration, c'était une expérience magnifique. C'était une expérience magnifique,
oui.
Jusqu'à ce que ce jour, comme je t'ai dit, sans problème, rien, je l'appelle, je lui dis, qu'est-ce qui se passe, je vois, la publication sur les réseaux, c'est quoi? Mais gagne-moi une aquanée, pas de manga à ta fille. Il dit, ok, passe-moi ta fille. Après, il appelle sur son téléphone. Je dis, d'accord, j'appelle ta fille. Il prend, oh, regarde, t'expliques, quand on arrive au Gabon, ok, mec, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il va t'expliquer. Je dis, ok. J'arrive au Gabon, j'appelle encore, elle se décroche, j'appelle la maman de Tenor. Maman Tenor, il y a quoi? Ouais, mon fils, vraiment, si tu viens au Cameroun, je peux mieux t'expliquer, c'est compliqué. Il dit, à ce point. Je dis, ok, je vais voir comment je peux venir, mon frère. Je connais le taf au state là-bas, c'est poignant. Si tu ne peux pas prendre congé, tu te lèves, soit tu démissionnes une fois.
Ouais.
Soit tu vois, comme ça que je prends ma démission.
Juste pour cette affaire.
Venir.
Ouais.
J'ai dit à la mère, là, et avant, quand je prends ma démission, je m'assure à demander un travail plus bas encore que quand je vais revenir, pas que je dèche, tu vois. Je m'assure à demander un travail plus bas. On me dit qu'ok, tu commences dans 7 jours. Le vol au Oklahoma, Cameroun, comme on dit de Oklahoma, on va là-bas, à DC, tout et tout, ça prend 2 jours pour arriver, 2 jours pour repartir. C'est-à-dire que j'avais une journée pour qu'on m'explique ce qui se passe. Je remonte. Quand j'arrive, je dis à la mère, là, bien, je quitte demain. C'était ok, mon fils, quand tu viens, tu m'appelles. J'arrive. Quand je l'appelle, elle ne prend pas le téléphone. J'appelle avec le nouveau chauffeur de mon père. Elle prend oui. Je dis, maman, c'est moi, c'est dès que tu viens. Ah, c'est comment mon enfant, ouais, je ça va. Ok, viens aider à 14h, on va se voir. Voilà qui prend la route. J'arrive à aider, j'appelle encore la matinée, ça passe pas. Je dis, mais c'est quelle histoire ça? Je reste comme ça, il est 18h. C'est soit je règle ça et demain matin, je pars. Après, je prolonge dans la Douala comme on m'avait dormi là-bas. J'achète donc une puce camerounaise, je me connecte. Je vois Tenor en live en train de signer chez Universal, ils sont là assis. C'est quoi cette rage là? C'est quoi ça? Vous me faites venir au Cameroun et vous êtes en train de signer. Donc moi, il vient pour m'expliquer, vous êtes en train de signer. Je prends, j'ai saisi un
avocat. Ça veut dire que c'est dans ton dos.
Oui, je ne suis au courant de rien. C'est-à-dire, on présente, sur la conférence de presse, on présente la maman de Tenor comme celle qui a tout fait pour lui. C'est elle qui l'a développé. Et Brice Albin, comme producteur de Tenor. Brice Albin, je ne le connaissais même pas, je ne l'avais jamais vu de ma vie. Mais sur les papiers, c'est Brice Albin qui est écrit producteur. Officiel de Tenor, je reste comme ça, je dis, c'est quoi ce film?
Waouh!
Brice Albin, c'est un animateur radio ou télé, un truc comme ça, on me dit que c'est lui le producteur de Tenor. C'est-à-dire que l'argent qu'on verse pour les bandes que j'ai déjà produites, puisque aujourd'hui, on ne va pas se mentir, ses plus gros sons, ce sont les chansons que j'ai produites. Il ne peut pas faire un spectacle sans ces chansons-là de nos jours. Donc, pour que Universal exploite ça, il faut payer et dédommager la personne
qui a
produit les chansons.
Oui.
Mais je reste comme ça, je suis choqué. Il me dit que c'est peut-être une mascarade. C'est-à-dire, ils vont me donner mon argent ou bien, et puis je vais repartir. J'envoie un huissier faire une sommation à l'hôtel là-bas où ils étaient logés pendant que la conférence se passait. Mais on les stoppe là, on a anti-Ken. C'est quoi? C'est Black Ken.
Black Ken qui était
on dit quoi, déjà à cette époque. Dit que, mais nous, on ne connaît pas ce Dex, lui, c'est qui? Oui, on a vu War Machine, on a demandé War Machine, c'est qui? On a dit que non, c'est juste un nom comme ça. Ils ont juste choisi comme
ah
ça.
Ah ouais?
Oui. J'ai dit, mais.
Waouh!
Lucien me dit qu'on est en train de dire que voilà. Il dit que c'est avec Black Enix, c'est avec lui pour parler. Il dit que lui, passez un peu. Et je prends le téléphone, je dis bonjour, c'est moi Dex Willy et tout, c'est moi War Machine et tout. Il dit, mais on n'est pas au courant et tout, mais pourquoi on ne nous a pas été clair? Brice Albin arrache le téléphone. Allô? Oui, petit frère, c'est ce que tu veux faire là? Hein? Tu veux gâter l'histoire? Tu veux gâter l'histoire? La première signature d'Universal? Tu veux gâter? Tu veux gâter? Arrête-moi la sorcellerie là! On va pas me couper. Après, Lucie lui dit que de toutes les façons, voilà la sommation. Il faut que vous expliquiez et tout, et tout, et tout. Ils partent, ils finissent quand même la signature. Puis après,
oui, parce que là, il n'y a plus rien à faire pour finaliser d'abord.
Oui. Après, j'ai même demandé à Christelle, Freddy Christelle, que pendant la conférence, demande aux gens là que où est War Machine. Il m'a dit que, gars, on a tué tout le monde ici.
Personne ne peut parler de ça. Ça veut dire qu'ils connaissent.
Ouais. Non, ouais. C'est pas eux d'Universal qui savaient. C'est la famille, ta fille, la mère, et tout, ils se sont arrangés. Qu'on a Choco, que personne ne doit parler de War Machine, de toi, personne ne doit prononcer ton nom, de tout ce que tu vois là. Gars, il dit, mais Freddy, c'est toi mon type. Tu dois être, on ne peut pas t'acheter. Mais gars, tu sais que ta fille aussi mon type. Les gars voyaient en fait que soit tu es avec ta fille, qui est là au Cameroun avec toi. Soit tu es avec Dex Willy qui est au State. Ouf, et qui... Tu gagnes quoi?
Ouais.
Donc les gars voulaient être proches de l'histoire. Ils voulaient être proches de cette histoire, je les ai compris. J'ai laissé tomber. Et j'ai jamais vraiment bien expliqué ça aux gens. Mais ce jour-là, j'étais vraiment froid. C'est fou le monde. Hein. C'est fou le monde.
Et là, tu estimes avoir. Est-ce que tu estimes avoir perdu de l'argent? Si oui, combien environ?
Tu sais, quand tu es en développement, un label indépendant ne fonctionne pas comme les majors. Les majors, même si il te dit viens au studio et qu'il est venu te prendre avec la voiture pour t'amener, il facture
la voiture, le chauffeur, le carburant.
Si c'est un 4x4, il va dire c'est 90 000.
L'association au studio.
Tout ça est noté. Mais nous, on ne peut pas évaluer vraiment nos investissements. Le simple fait même de vivre avec un artiste, de le nourrir, de l'habiller, de le déplacer, de le soigner, tu ne peux pas évaluer ça. Après, tu payes les clips, tu payes les ci, tu fais ça, tu fais ci, tu payes les DJ. Tu ne peux même pas, on ne s'assoit pas pour calculer ça. C'est aujourd'hui que je travaille comme ça maintenant, où je note tout. C'est-à-dire, mon artiste qui est là, peut-être qu'il est cadien, chaque jour qu'il passe, c'est qu'il a meublé. Oui, chaque jour, c'est 45 000. Oui, le jour où il y a une signature, un problème, il faut me rembourser. Et tu étais là, et voici ce que j'ai dépensé. Comme ça, tu mangeais chaque repas là. C'est comme ça, c'est du bon poulet. Et ça coûte 6 000. Peut-être c'est comme ça. Maintenant, on est un peu plus carré. Et donc, le jour où tu dis qu'ok, tu veux quitter la bête avec mon frère, voilà ma facture, donne-moi mon argent, et continue ta route. C'est comme ça. Tu vois? Donc, l'histoire se passe comme ça. Et puis moi, je rentre au State, mais froid.
Mais est-ce qu'on peut avoir une somme approximative? Ça avoisine plus de 10 millions?
Oui, bien évidemment. 10 millions, c'est quoi quand en développement? Au niveau où on était là, ouais. C'est rien du tout. Je te dis que tout ce que je gagnais repartait. Je n'ai pas acheté une chaussure avec l'argent de ton nom. Je n'ai pas acheté une chaussure. Que bon, ok, voici ma part, j'achète une chaussure. Non, mais j'achetais que ce qui le concernait. Il ne pouvait pas porter un habit deux fois, par exemple. Non, tu ne peux pas porter le t-shirt et tu reportes un peu ça. Il faut acheter un autre. Dis non, faut. C'était comme ça la vie tous les jours. Il fallait manger, il fallait gérer toute l'équipe qui est avec nous, si on louait des voitures, tout. Il fallait vivre. Tu vois, c'était compliqué. Et maintenant, où je tombe, parce que j'aurais pu gagner même ce procès, si Bowser, un seul instant, avait été loyal avec moi. Donc tout ceci ne se serait pas passé. Parce que, comme Black Kent là, non, c'est Moussa Soumbounou. Oui, qui était ancienne.
Oui.
Qui me dit que.
Toutes nos excuses à Black End, s'il veut.
Non, c'est Black End qui était là pour la signature. Oui. Mais j'ai dit, celui qui m'a dit ce que je veux dire là, oui. C'est Moussa.
D'accord.
C'est Moussa qui me dit que, après, hein, c'est-à-dire quand Moussa vient au Cameroun, il entend parler de l'histoire, il voit Tenor, il voit l'équipe qu'on présente avoir développé Tenor, il voit les nouveaux projets, il se dit. Un truc qui manque sur le petit site. Lui dit que qui le développait avant. On lui dit que c'est des les gens, mais on lui dit que c'est un gars d'expo. Il m'appelle. Bonjour, c'est Moussa Soumbounou, machin. Je suis nouveau directeur Universal. C'est-à-dire Black Kent, lui, on l'a affecté. Et je crois qu'il a été affecté à un autre poste, soit quelque chose de directeur artistique. Et puis c'est Moussa qui gérait maintenant. Donc Moussa voulait donc, comme il était le nouveau nommé,
il voulait connaître tous les dossiers.
Oui. Le dossier tenant qu'on a au Cameroun, si. Pour son développement, c'est quoi le problème? Donc, c'est là qu'on explique. Il m'appelle, il me demande, je lui explique tout ce qui s'est passé. Il me dit que, mais est-ce que tu as les preuves? Parce que si tu as seulement les preuves que c'est toi qui as produit les chansons, tu viens avec. Je ne sais pas pourquoi on va se discuter. Parce que moi, il me dit, moi, je ne suis pas venu en Afrique pour exploiter les Africains, je suis venu pour développer. Donc, quand je trouve des gens qui, comme moi, sont quittés des pays pour venir développer et ils ont ce genre de problème, j'ai envie de connaître. Et là, j'ai dit je lui demande que, bon, quand vous dites preuve, c'est quoi? Il dit que juste des factures, des bandes audio, c'est tout. C'est ça être un producteur. Tu es producteur, tu prouves que tu as produit cette chanson parce que
ça
tu as payé.
Ça t'a coûté telle somme.
Oui, même oui. Si c'est 10 000, si tu as payé, tu as la facture. Tu viens avec les factures. Tu entres dans ton droit. J'appelle donc Bowser, qui travaille dans mon studio, où on a enregistré. J'ai dit à Bowser, c'est vrai que dans notre climat, comment on travaillait, les factures sortent d'où là?
Oui.
Tu vois, il dit que mes gars.
Vous aviez un fonctionnement un peu familial.
Famille, c'est comme ouais. Là, j'ai le studio ici, là. On ne veut pas faire des factures à chaque son que mon artiste a déjà enregistré. Bien quand. Non. Mais le cas arrive, donc je dis à Bowser, que gars, fais-moi seulement. Puis des factures des musiques que j'ai faites tenant à Bambodo, Double Tap, tous les sons que j'ai faits. Fais-moi juste des factures de ça, mon frère, je récupère. le peu de dos que peut être pour continuer de développer d'autres artistes avec. Parce que là, les gars m'ont tout. Il me dit que, gars, il n'y a pas de problème, on va voir. Je le rappelle encore, il ne décroche plus. Après, le gars me dit que, gars, tu sais que les gars m'ont proposé un poste là-bas, c'est moi qui vais gérer quoi d'universel en ce qui concerne le son, je ne peux pas les trahir. Donc, c'est eux maintenant. J'ai compris qu'il avait sa part du gâteau. Il me dit, enfin, ce qui s'est dit dans les bacs, c'est que je ne le payais pas quand il travaille. Je lui dis, tu as un studio. Mon frère, tu quittes de Tchang où tu étais, tu faisais rien. Tu es dans un studio. Tu peux te faire de l'argent. Tu veux que je te paye encore mensuellement ou bien par chanson, alors que le studio est là, c'est un business. On te donne un business. Comme si on te donne une boutique ou je ne sais pas, ou un taxi. Et puis de temps en temps, tu viens nous porter aussi pour nous amener. Tu dis que non, il faut qu'on te paye parce que tu nous parles, que tu travailles avec mon taxi. Je suis resté tranquille. C'est comme ça que j'ai tout perdu. Je suis parti. Donc, je me suis mis au travail d'Arter. Je suis revenu au Cameroun pour signer à Verodiest et Mr. Shine. Dieu merci. Ça a aussi marché.
Oui. Et félicitations pour ça. Félicitations d'avoir eu le courage de replonger encore. C'est pour ça que j'ai appelé ça cette sauce au départ. Yeah. Toute cette sauce. Je voulais qu'on parle un peu de la production au Cameroun. Qu'est-ce qu'on doit savoir avant de se lancer? Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de jeunes artistes qui sortent et il y a plein de gens qui s'autoproclament producteurs. Toi, tu es un professionnel déjà. Qu'est-ce qu'on doit savoir avant de se lancer en production?
Bon, déjà, de mon expérience, oui, il faut formaliser les choses. Parce que lorsqu'il y a des litiges, c'est ce côté formel qui vous sauve. Donc, quand vous voulez commencer un label, prenez le temps de créer la société légalement. Mettez-vous en forme. Quand vous vous mettez en forme, que cette entête légale soit l'entête qui signe vos artistes. Première des choses. Deuxième des choses, le minimum de temps qu'il faut pour un développement où tu es sûr que tu vas pouvoir récupérer. Si vraiment tu fais un développement de carrière, pas de chansons. Parce qu'il y a des artistes, là, un buzz, là, et puis on vient les signer vite juste pour le buzz, les Happy des Foulan, et tous ces petits gens-là qui font un buzz, on les signe pour le buzz. Moi, oui, je fais un développement de carrière. Je ne prends pas les artistes qui font le buzz. Je n'ai jamais signé un artiste parce qu'il fait le buzz. Déjà, quand un artiste fait le buzz, je suppose qu'il a réussi, qu'il a s'est débrouillé. Moi, je prends mes artistes de rien, je les développe. Donc, si tu es dans mon cas, signe minimum 5 ans. Parce qu'en 3 ans, tu peux te retrouver, tu n'avais pas encore commencé à manger. Et même si vous avez commencé à manger, tu es encore dans les 150. Qui permettent juste de tourner et rester existant. Par contre, si après ce moment de tourner là, la quatrième année, vous commencez à manger, la cinquième année encore là, tu peux manger quand même 2 ans et récupérer ce que tu as. Mais si tu fais les 2 ans, les 3 ans là, tu vas regretter rapidement. Et troisième conseil que je peux donner au label indépendant, c'est vraiment étudier bien les artistes qui signent avant. Ne pas se laisser flatter par le talent. Le talent, il y en a partout. Il y en a partout. Ne vous laissez pas flatter par le talent. Ne vous laissez pas flatter par la gentillesse de quelqu'un qui n'a pas. Parce oui, que la gentillesse de quelqu'un qui n'a pas, c'est une gentillesse normale. Mais quand quelqu'un a et qu'il est toujours gentil, ça c'est une vraie gentillesse. C'est-à-dire, ça c'est inné. Mais tout le monde qui n'a pas et qui trouve une petite lueur de subsistance, de sortie du noir, il y en a qui ont ça de façon naturelle, l'argent ne les épate plus parce qu'ils ont déjà touché, ils ont déjà mis. Ceux qui n'ont pas là, qui n'ont jamais eu, ne vous laissez pas flatter par leur talent et leur gentillesse. Soyez objectifs, étudiez-les bien avant de les signer. Ils vont toujours vous montrer une belle facette de serviabilité, de bon garçon, de soutien, de loyauté et tout. Mais la réalité est que quand l'argent vient, les vrais visages font revenir. Ça que je peux donner comme conseil à ceux qui se lancent. Légalisez vos choses, signez minimum 5 ans si vous faites un plan de développement de carrière et ne vous laissez pas berner par
la gentillesse
et le talent. Le talent, il y en a partout. Donc, si celui-là, vous ne le sentez pas, testez-le d'abord. Testez-le. Trouvez des moyens de le tester, même pendant des mois. Ne courez pas. Ça, c'est votre argent, votre temps, votre sueur et surtout spirituellement votre étoile que vous portez.
D'accord. On parle rarement de ta casquette de ghostwriter. On te connaît pour avoir travaillé notamment avec Djanéa Paul Henry, plus connu sous le nom de Djanéa. Mmh. Mais beaucoup d'autres artistes aussi dont les noms n'ont pas fuité. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques noms et est-ce que tu pourrais nous parler de cette casquette de ghostwriter? Parce qu'au Cameroun, ce n'est pas encore développé, c'est quelque chose qui est encore méconnu, qui relève même de l'aberration. Parce qu'aujourd'hui, on ne conçoit pas qu'un artiste n'écrive pas ses chansons, pourtant c'est normal.
Oui, malheureusement, hein, au Cameroun, c'est vraiment encore conçu comme aberration, tu dis, mais pourtant, en France, aux États-Unis, dans les grandes industries, les grands artistes ne s'asseyent même plus trop pour écrire, ils s'asseyent pour interpréter. Ce que les autres ont fait, il y a de nouveaux concepts en France qu'on appelle le yaourt, c'est-à-dire les top lines, c'est ce sur quoi je suis plus accentué. Je suis plus accentué en top lining, même qu'en ghostwriting. C'est-à-dire, je crée la mélodie, la vibe, la musique. Et après, l'artiste peut mettre ses propres paroles.
Oui.
Maintenant, si l'artiste a des difficultés à mettre les propres paroles parce que je comprends où je partais, je peux aussi me proposer en tant que ghostwriter. C'est deux choses différentes. Les top liners ne se proclament pas. C'est vraiment des gens qui font dans l'ombre. Et ça fait beaucoup d'années du top line. Du top line même pour le Nigeria, la France, le Congo, tout ça. Mais je suis tenu à ne pas exposer. Compte tenu du contrat de confidentialité que nous avons. Il y a certains artistes, parce que c'est eux qui ont le droit de parler.
Oui.
Dernièrement, on a eu Stanley Eno, qui lui-même, de son propre gré, déclarait que j'ai fait le refrain de sa chanson à succès, Takeover. Mais à Mostoguette, il a même raconté dans quelles conditions j'ai fait la chanson et tout, c'est lui-même qui a décidé. Paul Henry, finalement, a décidé aussi de parler que c'est moi qui ai fait la chanson sur Cotton et tout.
oui.
Donc, il y a certains qui sortent eux-mêmes et qui proclament. Mais tous les autres artistes pour qui j'ai travaillé, je suis tenu sur la confidentialité que j'ai signée avec eux. C'est-à-dire, vous me payez et puis on s'arrête là. J'ai un agent international par qui je passe pour vendre des chansons dans le monde entier. Des grands artistes, même français, grands artistes nigériens, tout ça. Il est très connu. Donc, je lui envoie mes top lines, tout ça, et puis les vends dans le monde entier, même ici en Afrique et tout. Maintenant, pour ceux du Cameroun. Je me déplace dans mon studio mobile, donc au besoin, je vais, on prend un appartement, on s'enferme, on travaille, huis clos, après ni vu ni connu, je me paye et puis je me casse.
Ouais.
Voilà.
Typiquement le Pablo.
Yeah, c'est comme ça.
Là, tu es sur une nouvelle dynamique avec la reprise des activités officielles de War Machine. Ça veut dire de nouveaux artistes signés.
War Machine is back.
Voilà, de nouveaux artistes signés, une nouvelle vision aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît?
Bon, disons que la vision reste la même. La vision est toujours de développer des artistes de rien à quelque chose pour les amener à l'international, arriver enfin à créer une grande famille War Machine à succès. Parce que c'est ça mon grand rêve. Créer une grande famille War Machine à succès. C'est-à-dire que normalement, si tu fermes les yeux et que tu imagines Tenor dans le même label actuellement, Averro Jess dans le même label, Mr. Chan dans le même label, Vanister encore dans le même label, et imagine un peu combien d'autres artistes, grâce à cela, j'aurais pu ramener dans la boucle. Qu'aujourd'hui, War Machine serait comme Mavin Records au Nigeria, si on avait cet instinct de loyauté. Ce petit instant, on aurait créé quelque chose de magique. C'est ça mon grand rêve. Qu'un jour, il y ait 10 artistes War Machine, qu'il y ait un concert War Machine au stade Omnisport, pas au Palais des Sports, et que ce concert soit plein parce que tous mes artistes sont à succès dans l'international, dans le gospel, dans tel. C'est ça mon grand rêve. C'est ça la dynamique que je veux atteindre. C'est cette vision que j'ai toujours. Rien n'a changé. Maintenant, j'ai juste pris d'autres dispositions. C'est ça que j'ai mis du temps pour pouvoir sortir. C'est 2 ans et demi ou 2 ans que je suis dans l'ombre. J'étudie les gens. J'ai vu des artistes. J'ai parlé avec eux. J'ai commencé à les étudier. Je les ai testés. Certains, je les ai tamisés. C'est-à-dire, j'ai testé, j'ai vu, j'ai tamisé. J'ai testé tel, j'ai vu, il n'est pas bon, j'ai tamisé. Je suis resté avec deux de la première vague des 6 que j'avais signés. Les deux, j'ai continué de tester, j'ai vu que c'était bon, je les ai gardés. Après, j'ai continué de regarder au bord, j'ai encore vu 2, 3, 4, 5, 6, j'ai tamisé, je suis resté avec 4. Mais les 4, sauf erreur de ma part, ils sont les bons.
Oui.
Ils sont les bons. Et j'ai une cinquième artiste spéciale, celle qui compte le plus pour moi, ma dernière petite sœur, celle qui a tout le talent de la famille. Et c'est la seule
Petite
personne,
sœur
le sang,
de sang.
Oui, c'est la seule personne que je sais pouvoir amener jusqu'au bout du monde, parce que c'est mon sang. Elle va jamais me trahir. Il n'y a pas de risque. On ne va jamais se séparer. Dès que je vais la sortir là, tout le monde, et venez proposer, venez intoxiquer, venez, c'est ma soeur. Il n'y a rien. Il n'y a rien fait. Les autres, encore, vous avez essayé.
Oui.
Mais ma soeur, il ne pouvait pas. Donc, la dynamique reste la même, la vision reste la même, sauf avec beaucoup plus de recul, beaucoup plus de professionnalisme dans les signatures de contrats, dans la gestion de carrière, tout ça, et surtout dans les rapports avec les artistes. J'étais très, très ouvert. Parce que j'étais vraiment, je prenais mes artistes comme ma famille, comme mes frères. Maintenant, je les prends comme des frères, mais pas comme ma famille. Jusqu'à ce qu'ils me prouvent qu'ils font partie maintenant de ma famille. Et eux, c'est à eux de prouver. C'est pas à moi de prouver que je veux qu'on soit de ma famille. Non. C'est déjà clair ce que je fais. Je n'ai plus rien à prouver. Est-ce que je sais développer ou pas? Non, on le sait, je sais développer. J'ai ce don, c'est Dieu qui donne. Maintenant, c'est aux artistes de prouver qu'ils ont envie de faire partie de la famille. Et ça, je continue d'être ouvert à écouter des artistes par-ci, par-là. Je suis conscient de ce que je suis un label indépendant. Donc, je fais avec les moyens que j'ai. Je ne peux pas prendre trop. Je prends le peu que je peux et je fais avec ce que je peux.
Ouais. Merci, Dex. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions dans For Oui, le podcast. Comme il est de coutume, je te laisse le mot de la fin. Non sans rappeler aux différents auditeurs de partager. Si vous êtes arrivé à la fin de cet épisode, merci. Merci de partager aussi à vos amis, à trois personnes autour de vous. Dex, je te laisse le mot de la fin. Comme il est de coutume dans For Oui, le podcast, à toi de dire aux auditeurs tout ce qu'il te chante.
Ok, ok. Déjà, je te remercie encore, Anton, d'être passé ici pour cette interview. Je sais que la distance était très longue, mais quand on croit en projet, je vois tous les sacrifices. Et For Real, le podcast, c'est une première expérience et je crois que vraiment, tu tiens quelque chose entre les mains qui est innovateur dans la façon de faire. Dans la simplicité de la chose, on est à l'aise là, tranquille.
Oui, on est en plein air.
En plein air.
En train presque de chiller.
En train de chiller et tout.